Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 8 janvier 2023. Nous allons tout de suite vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Offense de la France aux saintetés, la diplomatie iranienne réagit. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les interactions culturelles avec les pays africains ont pris un très bon élan dans le gouvernement Raïsi. La vengeance promise pour l'assassinat du général Soleimani est définitive et certaine, déclaration du commandant du CGRI, le général Salami. Et puis l'Iran se dirige vers la mise en œuvre d'un plan spatial de 10 ans et prévoit de concrétiser ses réalisations en s'appuyant sur les capacités d'experts nationaux. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Bienvenue à tous. Les interactions culturelles avec le monde islamique et les pays africains ont pris un très bon élan dans le gouvernement du président Raïsi, a déclaré le ministre iranien de la Culture à l'occasion de son déplacement en Mauritanie. Mohamed Mahdi Esmaili est arrivé à Nouakchott le 6 janvier et a été accueilli par les autorités officielles de la République islamique de Mauritanie. Le ministre iranien de la Culture est en Mauritanie afin de participer à la cérémonie officielle de présentation de Nouakchott, la capitale, comme capitale culturelle du monde musulman en 2023. Au cours de son séjour de 2 jours en Mauritanie, le ministre iranien de la Culture participe à la cérémonie d'annonce officielle de la capitale culturelle islamique 2023 et à l'ouverture d'une exposition tenue à cette occasion sous la présidence du président de la République de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Lors de cette visite à Nouakchott, le ministre iranien de la Culture a rencontré Mohamed Ould Ghazouani, le président. Ismaili a remis à ce dernier un message du président Raïsi et une invitation pour la visite de la République islamique d'Iran. Faisant référence à cette rencontre avec le président de la Mauritanie et à ses entretiens avec certains ministres de la Culture des pays islamiques en marge du sommet de la désignation de la capitale culturelle mondiale islamique, a écrit sur sa page Rubika, l'opportunité pour la civilisation culturelle de notre cher Iran est un outil important pour approfondir la diplomatie publique de la République islamique. L'Iran prêt à organiser prochainement une commission économique conjointe avec l'Algérie. Lors d'une conversation téléphonique ce samedi avec son homologue algérien, le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié de bonne et en expansion les relations entre les deux pays avant de dire prêt la République islamique d'Iran à tenir une commission économique conjointe avec l'Algérie dans un proche avenir. Hossein Amir Abdollahian lors d'une conversation téléphonique ce samedi 7 janvier avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, se penche sur d'importantes questions d'intérêt commun dans le domaine bilatéral et des évolutions liées aux questions régionales et au monde musulman. Les deux hommes se sont notamment attardés sur la récente profanation de la mosquée d'Al-Aqsa par Israël, le nouvel acte islamophobe du magazine français Charlie Hebdo. Toujours lors de cette conversation téléphonique, Hossein Amir Abdollahian a qualifié les relations Téhéran-Alger de bonnes et en expansion avant de réaffirmer la volonté de Téhéran de tenir une commission économique conjointe entre les deux pays dans un proche avenir. Conversation téléphonique entre les ministres iraniens des Affaires étrangères et vénézuéliens. Le ministre iranien des Affaires étrangères a félicité Ivan Gil Pinto pour sa nomination en tant que nouveau chef de la diplomatie du Venezuela. Lors d'un appel téléphonique, samedi, il a discuté avec lui des questions d'intérêt pour les deux pays. Le très haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian a exprimé, toujours lors de cette conversation téléphonique, qu'avec la coopération et les efforts mutuels, les deux pays assistent à une nouvelle expansion des relations bilatérales dans tous les domaines. Pour sa part, Ivan Gil, le nouveau ministre vénézuélien des Affaires étrangères, tout en remerciant Amir Abdollahian pour ses vœux, a considéré Téhéran et Caracas comme deux partenaires importants sur la scène internationale. Il s'est dit satisfait de la tenue réussie de la commission économique mixte des deux pays. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a nommé vendredi Ivan Gil au poste de ministre des Affaires étrangères de Venezuela. Aujourd'hui marque le 3e anniversaire de l'attaque de missiles balistiques de l'Iran contre la base aérienne américaine d'Ain al-Assad dans la province occidentale d'Al-Anbar en Irak. Leur raid a été menée en représailles à l'assassinat du commandant en chef iranien, le lieutenant général Qassem Soleimani. Deux jours après l'assassinat du général Soleimani, les législateurs irakiens ont approuvé un projet de loi obligeant le gouvernement à mettre fin à la présence de toutes les forces militaires étrangères dirigées par les États-Unis dans le pays. Les deux commandants antiterroristes étaient extrêmement respectés et admirés dans toute la région pour leur rôle déterminant dans la lutte contre Daesh et la décimation de ce groupe terroriste, en particulier en Irak et en Syrie. Le 8 janvier 2020, le corps des gardiens de la révolution islamique a visé la base américaine d'Ain al-Assad dans la province occidentale d'Al-Anbar, en Irak, par une série de frappes aux missiles en représailles à l'assassinat du général Soleimani. Conformément aux données fournies par le Pentagone, plus de 100 soldats américains souffrent de traumatismes cérébraux suite à la riposte iranienne, un chiffre qui, selon le CGRI, a été annoncé par Washington pour dissimuler le nombre exact d'Américains qui ont péri au cours de la première gifle iranienne. L'Iran commémore également le 3e anniversaire de l'écrasement tragique d'un avion de ligne ukrainien près de Téhéran. Le vol ukrainien PS-752 était en route vers Kiev et a été abattu peu après avoir décollé de l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran. Les 176 personnes à bord ont été tuées. L'Iran a reconnu quelques jours plus tard que la mauvaise gestion du système radar d'une unité de défense aérienne par son opérateur était la principale erreur humaine qui a conduit à l'accident. Au moment de l'incident, les défenses aériennes iraniennes étaient en état d'alerte maximale en prévision d'une éventuelle attaque américaine. Quelques heures avant la tragédie, l'Iran avait lancé une frappe de missile contre une base américaine en Irak en représailles à l'assassinat du lieutenant général Qassem Soleimani. Téhéran a lancé une enquête sur l'incident et a promis que tous les coupables seraient traduits en justice. Dans le même temps, l'Iran a mis en garde contre toute exploitation politique étrangère de l'incident. Sachez également que l'Iran et l'Irak tiendront lundi la 4e commission d'enquête conjointe sur l'assassinat de Rassem Soleimani. Qasem Gharibabadi, chef iranien des droits de l'homme et chef adjoint de la justice pour les affaires internationales, a annoncé samedi que l'Iran et l'Irak tiendront lundi à Téhéran la 4e commission d'enquête conjointe sur l'assassinat de Soleimani. Au cours de cette session, de nouveaux documents seront échangés entre les délégations juridiques iraniennes et irakiennes et les deux parties partageront également de nouvelles informations sur la question. Enfin, l'Iran vers la mise en œuvre d'un plan spatial de 10 ans. L'agence spatiale iranienne a entamé le processus de mise en œuvre du plan spatial décennal du pays alors qu'elle a tenu samedi la première session de réflexion sur l'exécution du plan stratégique. La session a été présidée par le chef de l'agence spatiale iranienne, Hassan Salarieh, le premier jour ouvrable après l'approbation du plan par le Conseil suprême de l'espace du pays. Selon ce plan, la République islamique deviendra une plaque tournante régionale dans le développement des technologies spatiales et offrira des services de lancement spatial dans un délai de 10 ans. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Offense de la France aux saintetés, la diplomatie iranienne réagit. En réaction à la récente offense faite par l'hebdomadaire Charlie Hebdo aux valeurs sacrées de la République islamique d'Iran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déconseillé au gouvernement français de justifier cette action effrontée. L'hebdomadaire français Charlie Hebdo a consacré son dernier numéro spécial, 7 janvier, à l'Iran, en y publiant des caricatures à caractère offensant du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Il a lancé le 8 décembre 2022 un concours international. 35 dessins ont été sélectionnés parmi les 300 envoyés à la rédaction en provenance du monde entier. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a écrit dans un tweet « Vu son passé historique de colonialisme, de violation des droits de l'homme et de la liberté d'expression à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la France n'a pas le droit de justifier l'insulte aux valeurs sacrées d'autres États et des adeptes des religions au nom de la liberté d'expression. » Ce que les responsables politiques français doivent respecter, ce sont les principes évidents et fondamentaux des relations internationales, c'est-à-dire le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, le respect des valeurs et des saintetés nationales et religieuses des autres États, a-t-il poursuivi. Dans son même ordre d'idées, le président du Parlement iranien, Mohammad Borel Ghalibov, a déclaré au début d'une session plénière de l'Assemblée législative iranienne de ce dimanche 8 janvier que la décision sacrilège d'une publication française contre la plus haute autorité religieuse de la République islamique dénotait la fureur occidentale face à l'échec des récentes émeutes soutenues par l'étranger dans le pays. L'insulte de la publication française aux leaders de la révolution islamique est le résultat d'un manque de logique et le signe de la colère du front occidental face à l'échec du projet des récentes émeutes dans le pays, a déclaré Ghalibov. Soulignant que les ennemis de la révolution islamique ont usé de tous leurs moyens politiques, économiques, internationaux, médiatiques et sécuritaires pour cibler les dirigeants du pays, le président du Parlement iranien a poursuivi « Malgré toutes les lacunes et les défis économiques, le peuple iranien a protégé la République islamique et déjoué les complots des ennemis. Maintenant qu'ils ont échoué, ils ont eu recours à la diffamation en désespoir de cause. Il est évident que de telles mesures renforceront la détermination du peuple iranien à avancer vers l'indépendance et le progrès du pays. Il est nécessaire que le ministère iranien des Affaires étrangères mette en œuvre avec fermeté des contre-mesures contre cette action du gouvernement français afin que chacun comprenne qu'il n'est pas autorisé à insulter les valeurs nationales et les croyances du peuple iranien, a-t-il noté. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué mercredi l'ambassadeur de France à Téhéran, Nicolas Roche, pour lui communiquer le vif mécontentement des autorités quant à l'action subversive de l'hebdomadaire controversé français.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre et d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat, une émission durant laquelle nous allons évoquer la question palestinienne, la cause palestinienne, mais notamment cette prise d'assaut par le ministre israélien du cabinet d'extrême droite à la mosquée Al-Aqsa. Une condamnation internationale est survenue, donc non seulement les alliés de la Palestine occupée et l'axe de la résistance a réagi à cette profanation, mais également il y a eu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies ce 5 janvier dernier. Alors, quels ont été les objectifs de cette prise d'assaut, de cette profanation et de cette violation de cette sainte mosquée Al-Aqsa? Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Les Émirats arabes unis et la Chine ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir publiquement après que le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, issu de l'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a pris d'assaut l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville occupée de Rots. Une intrusion que les dirigeants palestiniens ont qualifiée de provocation sans précédent. La réunion a eu lieu jeudi 5 janvier. Au milieu des spéculations selon lesquelles la visite du ministre israélien sur le site risque d'exacerber les frictions entre les Palestiniens et le régime de Tel Aviv après une flambée de violence en Cisjordanie occupée par Israël en 2022. Pendant ce temps, la Jordanie a convoqué mardi l'ambassadeur d'Israël à Amman et a délivré un message de protestation vigoureuse contre la visite de Ben-Gvir dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Sinan Majali, a déclaré dans un communiqué que son pays condamnait fermement l'action provocatrice contre le lieu saint, exigeant que le régime israélien cesse immédiatement toutes ses violations. La prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa par un ministre israélien et la violation du caractère sacré de la mosquée sont une action condamnée et provocatrice. Et représente une violation flagrante du droit international, ainsi que du statut quo historique et juridique de Rots et de ses sites sacrés, a-t-il ajouté. Le porte-parole a également réitéré que le département du Waqf islamique de la mosquée Al-Aqsa est la seule instance chargée d'administrer les affaires de la mosquée. Le porte-parole a également réitéré que le département du Waqf islamique de la mosquée Al-Aqsa est la seule instance chargée d'administrer les affaires de la mosquée. En vertu d'un accord signé en 2013 entre la Jordanie et l'autorité palestinienne, le roi jordanien Abdallah II est le gardien des lieux saints musulmans et chrétiens de Rots. La cour royale hachémite paie les salaires des travailleurs des lieux saints musulmans. L'Égypte a également déploré mardi que Benvir ait pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, accompagnée d'éléments extrémistes sous la protection des forces israéliennes. Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a rejeté toute mesure unilatérale qui violerait le statu quo juridique et historique à Rots. Il met en garde contre les répercussions négatives de tels actes sur la stabilité et la sécurité des territoires occupés et sur l'avenir de la paix régionale, appelant toutes les parties à faire preuve de retenue. Entre autres, l'Union européenne a souligné l'importance de préserver la statu quo des lieux saints dans la vieille ville occupée de Rhodes. Nous rappelons l'importance de préserver le statu quo des lieux saints et sommes préoccupés par les actions qui vont à son encontre, a déclaré le bureau du représentant de l'Union européenne à Rhodes dans un communiqué de presse suite à l'incursion de Benvir dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Il risque d'exacerber les tensions à Rhodes et dans les territoires palestiniens occupés. Les dernières semaines, on a assisté à une augmentation dangereuse des tensions et du nombre des victimes. Il est important de désamorcer et d'éviter toute action et provocation qui alimente ces tensions, a-t-il ajouté.
De retour sur le plateau, alors je vous présente nos deux invités d'honneur qui ont accordé leur temps afin de participer à ce débat. Il s'agit d'Imadeddine Amrouni, analyste politique, qui est avec nous par Skype depuis Paris, mais également Jacob Cohen, écrivain et analyste politique, qui est également avec nous par Skype. Je vous dis bonjour messieurs et merci de nous avoir accordé votre temps. Monsieur Cohen, si vous voulez bien, on commence avec vous concernant cette profanation, cette violation de la cour sainte de cette mosquée. À votre avis, quel a été en fait l'objectif du régime sioniste à travers cette provocation dans la conjoncture actuelle?
Bon, d'abord, il faut reconnaître une chose, c'est que ça a été fait avec le minimum, de provocation, justement. Oui. C'est assez étonnant de la part de ce ministre. C'est-à-dire, d'abord, dans le plus grand secret, ce ministre s'était entendu avec Netanyahou la veille qu'il n'irait pas. Il a rendu visite à l'aube, donc il n'y avait même pas aucun fidèle musulman de la mosquée. Donc finalement, en fait, je pense que c'était une espèce de tester un peu, de passer un message, mais sans en faire trop pour le moment.
Ah oui.
C'est-à-dire de provoquer un peu le débat ou les réactions pour voir un peu. C'est comme un ballon d'essai, voilà. Mais en fait, on a vu des provocations beaucoup plus éclatantes, beaucoup plus évidentes, des interventions militaires, des interventions en pleine fête juive, par groupe, avec des provocations contre les personnes, contre les biens. Et là, c'est vraiment dans la discrétion la plus totale. Voilà, la première chose que je voulais dire sur cette... Ceci dit... Il ne faut pas se faire d'illusions sur ce gouvernement, sur ce ministre. Tout sera fait, je dis bien tout, pour amener. Évidemment, ils n'iront pas jusqu'à provoquer la Jordanie. Ça, c'est la ligne rouge. Parce qu'il y a toute une question de stabilité régionale. Il ne faut pas affaiblir ce roi, etc. Mais dans ce cadre, disons, en faisant attention à ne pas déstabiliser trop la Jordanie, ils feront de plus en plus ce genre de provocations et ils feront des choses. Vous savez, chaque jour, des maisons palestiniennes sont confisquées, des gens perdent leurs papiers d'identité, la judaïsation de Jérusalem se poursuit de plus en plus. Donc, en fait, c'est ça le scandale. Et je regrette peut-être que j'aurais eu l'occasion de le dire, mais je le dis tout de suite. Je regrette que le Conseil de sécurité n'ait pas été saisi sur la question de Jérusalem en général, et on l'a saisi pour la question de cette provocation, ce qui n'a rien donné finalement. Alors que si on l'avait saisi sur l'occupation, la judaïsation et l'annexion de Jérusalem, là on aurait peut-être eu une réaction beaucoup plus intéressante.
Donc, Monsieur Cohen, si j'ai bien compris, à votre avis, cette visite de Benvir, c'était pour un petit peu analyser la situation, pour voir comment ça allait marcher, quelles en seraient les conséquences. Mais les conséquences étaient beaucoup plus amplifiées de ce qu'il pensait, en fait.
Je ne crois pas. C'est-à-dire, en fait, vous savez, les Israéliens, ils s'en fichent beaucoup des réactions internationales, notamment... Des déclarations, des résolutions. Enfin, je veux dire, on passerait des heures à vous citer le nombre des résolutions sur l'occupation, sur Al-Quds, sur les réfugiés. Ils s'en fichent totalement. Donc, c'est pas ça qui va. Ils savent que les Israéliens détiennent des cartes majeures dans le jeu international. Mmh. C'est une puissance nucléaire, c'est une puissance incontournable en matière de renseignement, en matière militaire. Et donc, c'est un partenaire obligé, même si plusieurs États le craignent, ou le respectent, ou s'en méfient, mais c'est un acteur majeur, et ces pays-là ne vont pas risquer une conflagration pour des broutilles, enfin, qu'ils considèrent comme des broutilles, voilà.
D'accord. Monsieur Cohen, restez avec nous, s'il vous plaît. Nous allons entendre l'analyse d'Imadeddine Amrouni, analyste politique qui est également avec nous par Skype. Monsieur Amrouni, vous venez d'entendre l'analyse de Monsieur Cohen. De votre point de vue, quel a été l'objectif principal de ce ministre israélien à travers cette visite et à travers cette profanation à la mosquée Al-Aqsa?
Bonjour à vous, bonjour à notre cher ami Monsieur Cohen. Vous savez, on vit en Israël la fin du sionisme. Et Monsieur Itamar Benvir, c'est-à-dire la droite de l'extrême droite israélienne, essaie de récupérer le sionisme pour une autre idéologie. En fait, c'est la désillusion du sionisme à l'intérieur même d'Israël aujourd'hui. La fin du rêve israélien, en fait, entre parenthèses, si on peut parler du rêve, mais c'est un cauchemar pour les Palestiniens, mais pour les Israéliens qui ont créé l'entité sioniste, c'était un rêve de l'époque. Donc, cet acte de provocation, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, mais c'est un symptôme de la fin du sionisme. Pourquoi je dis ça? Parce que M. Itamar, il représente cette nouvelle extrême droite israélienne qui, que même l'opinion publique israélienne ne se reconnaît pas. Il y a même des réactions très dures à l'intérieur même d'Israël contre cette provocation, qui c'est une provocation purement gratuite. C'est-à-dire qu'elle ne sert ni l'État israélien, ni l'armée israélienne, ni même les alliés d'Israël, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc ça sert à qui cette provocation? Comme M. Cohen l'a démontré tout à l'heure, il est venu pendant 10 minutes. 10 minutes, il est resté 10 minutes, pas plus. Donc ça montre très bien que cette provocation, c'est un message pour ces groupes à lui-même et c'est un message anti-Netanyahou. Parce qu'il faut comprendre le mécanisme maintenant à l'intérieur même d'Israël. Ce gouvernement, peut-être, il ne va pas durer plus que 6 mois, puisqu'il porte en lui, c'est-à-dire les virus de sa faim. Donc, il y a une guérilla politique à l'intérieur même de ce nouveau gouvernement. Monsieur Netanyahou était contre cette visite, mais il a donné le feu vert, entre parenthèses, pour son ministre de la Sécurité intérieure. Maintenant, cette provocation, qu'est-ce qu'elle va générer? Elle va générer d'abord la division politique à l'intérieur même du gouvernement de Monsieur Netanyahou, mais aussi elle va nécessiter la réponse de la résistance palestinienne. Donc, en fait, aujourd'hui, Israël ne peut faire que provoquer les Palestiniens. Au-delà, elle n'a plus les moyens. C'est-à-dire, elle a le moyen d'envoyer quelques missiles sur la Syrie, elle a le moyen de provoquer les Palestiniens, mais pas plus. Donc, c'est pour cette raison, je dis, on vit dans la fin du sionisme politique à l'intérieur même de l'entité sioniste.
Merci pour vos explications, M. Amrouni. Reste en ligne, M. Cohen. Vous venez d'entendre les analyses, l'analyse de M. Amrouni, mais également vous avez évoqué une chose dans ce que vous avez dit. Cet je m'en foutisme, en fait, du régime israélien vis-à-vis des conseils de sécurité, des résolutions, etc. D'où vient ce je m'en foutisme israélien? C'est parce qu'ils savent qu'il n'y aura rien, en fait, après ces résolutions, il n'y aura rien de concret suite à ces réunions d'urgence, ces résolutions et ces condamnations, c'est pour cela?
Non, c'est parce que le monde occidental a découvert avec émerveillement, dans les années 60, un chien de garde extraordinairement efficace contre les pays arabes qui osent remettre en question leur hégémonie dans la région. Et donc, Israël est devenu un allié très précieux. Vous savez, la communauté internationale, enfin, je ne vais rien vous apprendre, elle est basée sur le cynisme et le rapport de force. Donc, voilà, le droit international, ça fait très joli. C'est un très bon décor. Mais quel était l'intérêt? Rappelez-vous, le monde arabe, dans les années 50-60, c'était l'ébullition, les désirs d'indépendance, etc. Et donc, d'unité. Et Israël, on a découvert en Israël, la première agression tripartite contre le monde arabe, contre Nasser, ça a été en 56. Israël, la Grande-Bretagne et la France contre Gamal Abdel Nasser. Donc en fait, Israël est un allié précieux. Donc on lui passe tout et on le renforce. On a intérêt à le renforcer parce qu'il est celui qui met au pas les pays arabes. Et donc voilà d'où vient l'impunité d'Israël. En plus, comme c'est une puissance nucléaire, on n'a pas intérêt à trop les chatouiller. Mmh. Et on connaît les sionistes, ils sont capables de tout. Vous savez que l'idéologie sioniste, c'est si on nous cherche des emmerdes, excusez-moi l'expression, ça veut dire si on nous pousse au bout, nous avons les moyens de mettre le feu partout. Et ils sont capables. Donc c'est, je veux dire, ils sont prêts à cette mentalité d'assiéger. Et donc finalement, remarquez d'ailleurs, même la Chine, la Russie, l'Inde, pour ne citer que ces grandes puissances, ont un rapport, comment dire, correct, quasi, disons, pragmatique avec cet État. Mmh. Et donc on lui passe ces petites occupations font partie, comment dire, de son, peut-être, on lui reconnaît implicitement. Vous savez, il y a des belles déclarations, mais on lui reconnaît implicitement une espèce d'espace vital dont il aurait besoin.
Merci pour vos explications, M. Cohen. Restez en ligne. M. Ambrouni, en ce qui concerne cette sûreté dont bénéficie l'État, enfin, le régime sioniste, comme le dit M. Cohen, est-ce que ce serait aussi, en quelque part, à cause et grâce peut-être au soutien qu'apportent les États-Unis aux lobbies sionistes partout dans le monde, dans divers dossiers, est-ce que le régime israélien n'est-il pas trop sûr de ce soutien de qui que ce soit, hein, le président américain, que ce soit un droitiste ou gauchiste, il y aura toujours un soutien des États-Unis à Israël?
Oui, bien sûr, comme il a démontré M. Cohen, en fait, le lobby sioniste, peut-être on lui donne trop d'importance, il n'y a pas que le lobby sioniste, c'est le lobby mondialiste. Car le lobby mondialiste, le groupe anglo-saxon qui domine le monde depuis un siècle et demi, c'est lui qui manipule tout le monde. Il manipule les musulmans, il manipule les chrétiens, il manipule les juifs, et à chacun à sa dose. Donc les anglo-saxons, ils ont manipulé tout le monde, ils ont créé ce nouveau système depuis deux siècles, et donc ils manipulent par la force et par l'idéologie. Et donc ils ont trouvé l'idéologie sioniste qui va dans leur faveur, comme M. Cohen l'a bien dit. Ils ont développé le wahhabisme par rapport à l'Arabie saoudite, et ils ont développé le cynisme en Occident, surtout en Europe, c'est-à-dire cette idéologie de la liberté, de droit de l'homme, de droit de la femme, etc., etc., c'est-à-dire un bon emballage pour l'impérialisme anglo-saxon. Aujourd'hui, les données ont changé. Aujourd'hui, on a un changement réel en Russie, un changement réel en Chine, un changement réel dans la région du Moyen-Orient, c'est-à-dire la nouvelle force de la République islamique iranienne, la nouvelle force de la Turquie, il y a le Pakistan aussi, et il y a l'Inde, plus ou moins. Donc les données ne sont plus les mêmes. Mm-hmm. C'est vrai que pendant 75 ans, Israël a profité, si vous voulez, de la domination anglo-saxonne. Aujourd'hui, les données ont changé. Maintenant, est-ce que l'entité sioniste est capable de retrouver des alliances? Comme M. Cohen tout à l'heure a parlé de la Russie, M. Netanyahu, c'est un ami proche de Poutine. Par exemple, la diaspora juive d'origine russe, elle est importante, elle représente à peu près plus que 30% à l'intérieur même de l'entité sioniste. Donc il y a un changement réel sur la géopolitique régionale. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, il y a, si vous voulez, il n'y a pas une unanimité à l'intérieur même d'Israël au niveau stratégique. Il y a l'armée et le renseignement d'une part, il y a l'élite politique qui est divisée en trois parties, et donc même vis-à-vis de l'Iran, on ne sait plus comment il faut faire. Est-ce qu'il faut attaquer militairement? Est-ce qu'il faut trouver des négociations pour trouver des solutions politiques? Donc le problème aujourd'hui, il est à l'intérieur même de l'entité sioniste. C'est ça qui est très, 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 très nouveau. Parce qu'on rentre dans un nouveau système mondial. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'affrontement entre la Russie et l'OTAN sur le territoire ukrainien. On ne sait pas ce que ça va se passer en Irak, en Syrie, par rapport au changement des alliances. Aujourd'hui, on voit le rapprochement turc avec la Syrie, le retour des Arabes comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avec le pouvoir syrien, la stabilité politique en Irak. Maintenant, qu'est-ce que Israël va faire? Parce que la stabilité politique, elle n'est pas en faveur d'Israël. Est-ce que les États-Unis d'aujourd'hui, elle va laisser la main libre à l'entité sioniste? C'est une grande question de 2023. Et c'est pour cette raison qu'on voit le discorde à l'intérieur même de la politique israélienne. Il y a la droite de M. Netanyahou, la gauche, elle a perdu, et maintenant la gauche, elle se recherche. Je parle de la gauche israélienne. Et donc, on a un vrai problème politique intérieur et un vrai problème de la géopolitique nouvelle. Qu'est-ce que Israël va faire dans cette nouvelle géopolitique? Exactement. C'est une grande question, on n'a pas encore les réponses.
Justement, cette grande question, Monsieur Cohen, ce que vient de dire Monsieur Amrouni, qu'est-ce que va faire Israël dans cette nouvelle géopolitique? Est-ce qu'on pourrait quand même s'attendre à quelque chose de concret? À quoi, à votre avis, devrait-on s'attendre dans les semaines, les mois à venir, vu les évolutions des derniers mois en ce qui concerne surtout la Palestine occupée, les provocations israéliennes, etc.?
Bon, sur le plan de la, d'abord sur le plan intérieur israélien, je voudrais dire juste un mot, c'est oui. Que effectivement la société israélienne évolue vers une espèce de théocratie. Ça veut dire il y a vous savez, en plus de l'extrême droite, il y a deux grands partis religieux. Et donc, ces partis veulent réintroduire une espèce de charia juive. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais disons sur le Shabbat, sur les mariages, sur qui est juif, etc. Et donc, et vraiment, c'est sur l'éducation nationale. Et donc, il y a une espèce de tendance, ça c'est tout à fait nouveau, c'est révolutionnaire, dans le sens révolutionnaire, pas dans le sens progressiste. Mmh. Mais vraiment, il y a une installation d'une théocratie. Bon. Mais par contre, sur le plan de la Palestine, ça va plutôt empirer. Pourquoi? Tout simplement parce que ces partis de droite extrémistes ont de plus en plus une couleur messianique. Ça veut dire qu'ils attendent le Messie, ils espèrent le Messie, et ils en font de la Cisjordanie. Vous savez, la Cisjordanie, la terre de Palestine, telle qu'elle est écrite dans la Bible, hein, l'Ancien Testament, auquel les religieux se réfèrent, ce n'est pas Tel Aviv. C'est Hébron, c'est Naplouse qu'ils appellent Shrem, c'est Yehuda Veshomron qu'ils appellent la Judée et la Samarie, ils utilisent toujours les mots hébreux bibliques. Donc, pour eux, c'est c'est le nouveau sionisme. Et donc, en fait, ils ont transposé l'épisode sioniste de conquête de l'État vers cet espace. Et donc, la première chose déjà qu'ils vont faire, c'est de légaliser. Et vous savez, avant, avec le gouvernement de Netanyahou, il y avait un vernis démocratique, ou légal, oui. Si vous voulez dire. Il y avait des implantations qu'on considérait juives, illégales, etc., et des colonies. Mais là, toutes ces colonies vont devenir légales. Donc, ça veut dire rattachées, etc. Donc, il va y avoir une conquête de plus en plus forte de ce qui reste de la Cisjordanie, de la Palestine. Et toute solution, même un bon tout ce temps pour la Palestine, je crois que ça va devenir un rêve irréalisable.
Et vous, à votre avis, M. Amrouni, à quoi devrait-on s'attendre? Quel est votre pronostic?
Oui, je pense que les États-Unis, elles sont en train de chercher une trêve. c'est-à-dire une trêve de 15 ans, de 20 ans dans la région, parce qu'elle a besoin. Elle a besoin pour affronter la République populaire chinoise. Donc, elle a besoin d'un trêve entre l'Iran, la Turquie, Israël, la Syrie, l'Irak et la résistance libanaise et la résistance palestinienne. Maintenant, est-ce qu'à l'intérieur même d'Israël, on a besoin de cette trêve? Est-ce que cette trêve, elle joue en faveur de M. Netanyahou et de la droite et l'extrême droite israélienne, ou le centre-gauche va revenir au pouvoir? Ça, c'est une grande question. Maintenant, les États-Unis, ils essaient de trouver des solutions politiques dans la région pour se consacrer dans l'affrontement au Pacifique contre les Chinois et en Ukraine contre les Russes. Donc, dans l'intérêt, si vous voulez, occidental aujourd'hui et surtout américain, il faut que les Israéliens trouvent une solution politique avec les belligérants, c'est-à-dire avec l'Iran, la Turquie et la Syrie et l'Irak. Donc, on va peut-être vers une négociation pendant ces 3-4 mois. Le retour des États-Unis, si vous voulez, sur la scène internationale par la guerre en Ukraine. Et donc, on voit ce qui se passe en Europe. Toutes les crises ils vont augmenter, les crises énergétiques, les crises politiques, les crises économiques. Et donc, dans l'intérêt des États-Unis, il ne faut pas avoir une autre guerre, un autre affrontement entre Palestiniens et Israéliens d'une part et entre Israéliens et Iraniens d'autre part. Donc, c'est ça. Il va y avoir une grande pression américaine sur l'entité sioniste dans les mois prochains.
Merci beaucoup, Jacob Cohen, analyste politique, et Imadeddine Amrouni, également analyste politique, qui était avec nous pour ce débat au sujet de la situation en Palestine occupée. Merci également à vous, à toutes et à tous, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Vous pourrez également revoir toutes les informations et les émissions sur notre site à l'adresse french.presstv.ir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'Afrique Économie, une émission durant laquelle nous allons réviser ensemble les importantes évolutions économiques et financières sur le continent africain. Restez avec nous. L'un des objectifs majeurs du gouvernement sierra-léonais depuis près de 5 ans est de repositionner le pays au niveau du concert des nations. Les autorités mènent à cet effet plusieurs réformes afin de promouvoir la politique étrangère et consolider la coopération avec les partenaires. La Sierra Leone dispose désormais d'une nouvelle académie du service diplomatique, la première du pays et de la région de l'Union du fleuve Mano. L'inauguration de l'établissement a eu lieu jeudi 5 janvier par Julius Maada Bio, le chef de l'État sierra-léonais, qui a publié l'information via un tweet effectué le même jour. L'académie, dont la construction a été financée par la République populaire de Chine, s'inscrit dans le cadre d'un programme gouvernemental visant à renforcer les relations extérieures en vue de l'intégration. Cet agenda de la nouvelle orientation se veut un outil de coopération internationale fondé sur le respect, la confiance et les avantages mutuels avec les partenaires stratégiques. Une action politique nécessaire pour renforcer la coopération internationale, soulignée dans notre plan de développement national, était la création d'une académie du service extérieur pour former et produire des diplomates de carrière pour l'engagement mondial. Cela s'inscrit également parfaitement dans notre programme de développement du capital humain. L'Académie nous permettra de consolider nos efforts pour promouvoir la politique étrangère de la Sierra Leone et renforcer la coopération avec les partenaires, indique le président Bio. L'objectif de cette académie est d'améliorer et de renouveler les compétences de la main-d'œuvre existante du service diplomatique.
Il vise également à recruter et former des diplomates professionnels qui seront compétitifs au niveau mondial dans un monde en constante évolution. Selon le président Bio, les diplomates qui s'en seraient admis bénéficieront d'une formation diplomatique de classe mondiale et des possibilités d'apprentissage tout au long de leur carrière. À terme, la Sierra Leone ambitionne, grâce à cette initiative, de faire progresser la politique étrangère du pays et favoriser la coopération, le commerce et les investissements internationaux. Plusieurs PME du Cameroun ont déclaré qu'elles débuteront l'année 2023 avec de nombreuses factures impayées. Au-delà du problème de trésorerie que cela représente pour elles, il y a une opportunité de créer un marché de produits financiers adossé sur ces créances. L'augmentation des factures non payées des petites et moyennes entreprises au Cameroun suggère qu'il y a un besoin de développer davantage un marché secondaire officiel des créances dans le pays. Pour plusieurs d'entre elles, l'année 2023 débute avec une trésorerie libre ou sous forte pression. J'accumule actuellement des impayés qui vont jusqu'à 6 mois et j'ai des collègues qui m'ont confirmé être parfois sur 12 mois, voire plus, de factures impayées. Cela commence à être compliqué pour plusieurs PME, a confié une gestionnaire d'entreprise dans une discussion avec Investir au Cameroun. Cette position est confirmée par un autre dirigeant du secteur qui dit avoir été obligé de recruter un chargé de recouvrement pour récupérer son argent. Cette situation survient alors que ces structures doivent impérativement faire face à des échéances urgentes comme l'acquittement de l'impôt sur les sociétés sur le premier trimestre, leurs propres dettes fournisseurs et les premiers salaires de l'année qui seront attendus de leurs employés. Face à cette situation, les PME de la première économie de la zone CEMAC n'ont que peu d'options. Il existe un marché formel et informel de l'affacturage, mais il est beaucoup trop difficile d'accès pour des structures de petite taille. Les taux de refinancement atteignent parfois les 15%. Les voies judiciaires sont tout autant compliquées. Il n'existe malheureusement pas de données ouvertes sur l'état de ces factures impayées, mais de nombreuses PME présentent cela comme un des risques majeurs qu'elles encourent au début de chaque exercice. Le développement en cours du marché boursier offre l'opportunité de créer des produits financiers qui rachèteront ces créances des PME et les mettront à la disposition des investisseurs qui ont la possibilité de placer leurs capitaux sur de longues périodes, le temps que les créances soient remboursées. Le taux de fréquentation du métro d'Alger a explosé depuis environ une décennie que le service ferroviaire a démarré. Ceci justifie les grands travaux d'extension en cours pour densifier ce réseau dont les capacités actuelles se révèlent faibles devant les prévisions futures du trafic. La phase des travaux de génie civil sur le métro d'Alger pour les sections Aïn Adjabaraki et Larache Aéroport Wari Boumediene sera finalisée d'ici mars 2024. Selon le ministre algérien des Transports, Kamel Beldjouch, actuellement, le taux d'exécution sur ces tronçons est d'environ 80%, a-t-il révélé. Selon lui, un processus est également en cours pour décider avant fin janvier du lancement de la phase des installations électriques, de ventilation et de télécommunications. Des travaux dont le marché sera attribué sous peu à une entreprise locale, soit par appel d'offres ou par gré à gré. Cette phase sera suivie du démarrage prochain des travaux d'extension du réseau depuis la place des Martyrs vers Taleb, Abderrahman et Triolé. Ces chantiers sont engagés dans le cadre du programme d'extension du réseau, devenu l'un des principaux modes de transport à travers la capitale. Depuis sa mise en service en 2011, les flux annuels de passagers ont plus que quadruplé, passant de 11,3 millions en 2012 à 45,3 millions de passagers en 2019 avant Covid-19. La crise sanitaire de la COVID-19 a accéléré la transition technologique du pouvoir judiciaire au Zimbabwe. Un ensemble de réformes sont en cours pour améliorer le fonctionnement de la justice et dématérialiser les dossiers y afférents. Le Zimbabwe va lancer dès le 1er février la deuxième phase du système électronique intégré de gestion des affaires judiciaires, baptisé IECMS. Le système basé sur le web permet de gérer des affaires judiciaires automatisées et suivre tous les aspects du cycle de vie d'une affaire, du dépôt initial à la décision et à l'appel. Le 1er février, nous mettrons en service le système au tribunal du travail et au tribunal administratif. Nous appelons tous les utilisateurs actuels et potentiels des tribunaux à s'enregistrer dans le système, a déclaré Daniel Nemukuyu, le chef des services généraux de la Commission des services judiciaires. C'est le 7 février dernier que la Commission des services judiciaires a lancé la première phase de l'IECMS avec pour objectif de réduire les arriérés des dossiers, prévenir la perte et l'endommagement physique de documents d'un dossier, améliorer l'accessibilité de l'information et moderniser les opérations du secteur, rappelle WeArtTech. Dans le cadre de l'IECMS, plusieurs affaires ont été renvoyées virtuellement. Le tribunal de commerce, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle entendent déjà organiser des procès virtuels. Pour la deuxième phase, le système s'intégrera aux systèmes d'organisation tels que la police du pays, les prisons et les services correctionnels, le bureau du procureur, l'autorité nationale chargée des poursuites, la direction de l'aide juridique et le tribunal anticorruption du Zimbabwe. Nous organisons des sessions de formation pour le personnel et les autres utilisateurs des tribunaux sur la façon d'utiliser le nouveau système avant la mise en œuvre officielle de la deuxième phase, le 1er février, a ajouté Daniel Nemukuyuku.
Thank you.